Vous avez vu peut-être sur l'affiche que cette année, l'enseignement est divisé en deux parties totalement distinctes et sans aucun rapport. Selon la terminologie du collège, la première partie des 2 heures s'appelle le cours. C'est donc moi qui parle. Et le sujet en est la préparation du roman. Donc à 10h30, tous les samedis, pendant 13 semaines, cours la préparation du roman. Ensuite, un bref intervalle. Et deuxième partie, ce qu'on appelle au collège le séminaire, qui en fait ne veut dire que ceci, c'est que dans le séminaire, les professeurs ont le droit statutaire d'inviter des personnes, des savants, des amis, peu importe, à venir faire un exposé. Donc cette année, le séminaire, ils auront des invités. Il aura lieu de 11h30 à 12h30 et il portera sur la métaphore du labyrinthe. Donc, je me permets de répéter, aucun rapport entre ces deux parties de la séance et vous n'êtes absolument pas obligé d'assister aux 2 heures, comme d'ailleurs à aucune heure. Bien, donc je commence le cours proprement dit que j'ai intitulé la préparation du roman, en prévoyant en principe de garder cet intitulé pendant plusieurs années. Et voici pour commencer ce que je voudrais vous dire. Chaque année, en effet, en commençant un cours nouveau, il me paraît juste de rappeler le principe de cet enseignement qui a été énoncé à titre programmatique dans la leçon inaugurale. Comme maintenant elle est publiée, je peux même donner une référence, la page 43, où j'écrivais « Je crois sincèrement qu'à l'origine d'un enseignement comme celui-ci, il faut accepter de toujours placer un fantasme qui peut varier d'année en année. » Alors, je reviendrai bientôt sur le fantasme de cette année, et je pense les années suivantes, car ce fantasme-ci s'annonce, sinon tenace, on peut le dire d'un fantasme, du moins hante les mêmes ambitions. Ce principe, le principe donc de référer un enseignement ou une parole institutionnelle à un fantasme, c'est un principe général. Je veux dire que la chose à ne pas supporter, c'est de refouler le sujet, quels que soient les risques de la subjectivité. Je ne crois que personnellement, je suis d'une génération qui a trop souffert de la censure du sujet dans le champ intellectuel, soit par la voie positiviste, que l'objectivité, entre guillemets, et le refoulement de la subjectivité était requise, par exemple, lorsque j'ai fait des études à la Sorbonne, dans l'histoire littéraire, triompher les règles de la philologie et de l'interprétation philologique. Donc, soit par la voie positiviste, soit plus tard, en ce qui me concerne, par la voie marxiste, qui a été très importante pour moi, même s'il n'y paraît plus aujourd'hui. Je dirais que mieux valent les leurs de la subjectivité que les impostures de l'objectivité. Mieux vaut l'imaginaire du sujet que sa censure. Alors, cela posé, je voudrais maintenant réfléchir un petit peu avec vous et placer le début de ma réflexion sous l'invocation d'un vers très célèbre de Dante, qui est le premier vers de la Divine Comédie. « Nel mezzo del cammin di nostra vita » au milieu lieu du chemin de notre vie. À ce moment-là, Dante a 35 ans. Inutile de dire que j'en ai bien plus et que je suis bien au-delà du milieu mathématique du chemin de ma vie. Et de plus, j'ajouterai, je ne suis pas Dante. En disant cependant attention à ça, le grand écrivain, comme Dante, n'est pas quelqu'un à qui on se compare, je reviendrai là-dessus, mais à qui on peut et on veut, plus ou moins partiellement, s'identifier. Pas le droit de me comparer à Dante, mais j'ai le droit de m'identifier à lui. Mais le vers, n'est-ce pas, nel mezzo del cammin di nostra vita, le vers de Dante est un vers, je dirais, magnifiquement direct. C'est-à-dire qu'il inaugure l'une des plus grandes œuvres du monde par ce que j'appellerais une déclaration de sujet. L'œuvre est inaugurée par une déclaration de sujet dans le milieu du chemin de notre vie. Et je dirais entre parenthèses que l'écrivain, c'est peut-être celui dont la devise serait « Je ne refoule pas le sujet que je suis. Je ne refoule pas le sujet que je suis. » C'est cela qui caractériserait l'écrivain, notamment par rapport à l'écrivain. Bien qu'il y ait naturellement bien des manières et bien des détours pour dire la subjectivité, n'est-ce pas ? Dire « je » n'est pas forcément la bonne manière pour dire la subjectivité. Mais l'écrivain, c'est celui qui ne refoule pas le sujet qu'il est. Alors la déclaration de Dante dit, à mon avis, plusieurs choses, bien entendu. Elle dit premièrement que l'âge est partie constituante du sujet qui écrit, contrairement à ce qu'on croit. L'âge est partie constituante du sujet, bien qu'on ne considère jamais l'âge comme un élément du sujet. Sauf quand il est jeune, où il y a un mythe de la jeunesse. Mais dès que le sujet humain n'est plus jeune, il devient dans une sorte de... passe dans une sorte de no man's land de l'âge et on ne parle plus de son âge. Or, l'âge fait toujours partie du sujet écrit. Deuxième remarque, le milieu du chemin de la vie, évidemment, n'est pas mathématique. Qui le saurait à l'avance? Il se réfère, je pense, à un événement, à un moment, à un changement vécu comme significatif et solennel, une sorte de prise de conscience totale, celle précisément qui peut déterminer et consacrer un voyage, une pérégrination dans un continent nouveau, ce que Dante appelle au début aussi la selva oscura, la forêt obscure, ou si vous voulez, une initiation. C'est-à-dire que quand quelque chose se produit qui fait partir un trajet d'initiation, on peut dire que c'est en soi, un milieu de chemin de la vie. Et dans le cas de Dante, vous savez qu'il y a un initiateur qui est Virgile et que nous aurons aussi peut-être le nôtre, notre Virgile. Or, pour moi, qu'ayant dépassé largement le milieu arithmétique de ma vie, j'éprouve aujourd'hui cette sensation, cette sensation certitude, de vivre le milieu du chemin et de me trouver à cette sorte de point. Proust parle à un moment, par une très belle expression, de la cime du particulier. La cime du particulier. Eh bien, je me trouve à cette sorte de point, de cime, d'où les eaux se séparent selon deux côtés divergents. Et je dirais que cela s'est produit en moi sous l'effet de deux consciences, de deux évidences et d'un événement. Je vais d'abord dire un mot des deux consciences qui ont produit en moi cette sensation du milieu du chemin de ma vie. Bien que j'en ai dépassé, je répète largement, le nombre, le statut numérique. Alors d'abord la conscience de ceci, c'est que arrivé à un certain âge, On peut employer l'expression commune, les jours sont comptés. Les jours sont comptés. On a l'évidence, nullement dramatique d'ailleurs, que on a commencé un compte à rebours qui reste flou, bien sûr, mais dont le caractère irréversible est perçu, je dirais, plus que dans la jeunesse. Je voudrais ajouter ici que, à mon avis, être mortel n'est pas un sentiment naturel. Il n'est pas naturel à l'homme de se sentir ou de se vivre mortel. Ce qui est naturel, c'est au contraire le sentiment d'immortalité. Et c'est justement parce que c'est le sentiment d'immortalité qui est naturel que tant de gens, quand ils sont en loto par exemple, se jettent contre un arbre parce qu'ils sont persuadés qu'ils sont immortels. Pour ça, ils ne le feraient pas. Bien sûr, cette référence à l'âge, en général, disons à un certain âge, en général, elle est mal prise et elle est mal comprise. On y voit facilement une coquetterie, et très souvent, lorsqu'on fait allusion à son âge, quand on est plus jeune, on s'entend répondre par une sorte de réflexe qui devient d'ailleurs assez vite agaçant, mais non, pas du tout, vous n'êtes pas vieux, voyons, jeune, etc. Ou alors, si on fait allusion simplement, si on prononce le mot de mort, par exemple, de façon très simple, immédiatement, l'interlocuteur perçoit une sorte d'obsession morbide, comme si on ne pouvait pas parler de la mort. Alors, au contraire, je ne tiendrai pas compte de cela et je continuerai. Et je dirai que l'âge amène cette évidence, précisément, je suis mortel. Une évidence simple, mais encore une fois, finalement, extrêmement paradoxale. D'où, ou encore, si vous voulez, ce qui vient à la conscience, c'est la nécessité impérieuse de loger le travail à faire dans une case étroite et finie, qui est la dernière case. Ou plutôt, parce que la case est dessinée, parce qu'il n'y a plus de hors-case, c'est ça, parce que tout d'un coup on sent qu'il n'y a plus de hors-case, eh bien, le travail qu'on va y loger prend une sorte de solennité. Car il se produit un moment dans le cursus de l'âge dans la vie où il devient loyal, si je puis dire, et nécessaire de regarder en face l'usage du temps avant la mort. L'usage du temps avant la mort. Et ici, naturellement, il faut rappeler que ce sentiment ou ce regard sur l'usage du temps avant la mort constitue l'armature vraiment essentiel de la recherche du temps perdu, de Proust. Hein? Il y a un moment où, se sentant non pas vieillir, mais menacé par la maladie, il a été obligé de regarder l'usage de son temps avant la mort. Et c'est à ce moment-là qu'il a écrit. Et il a d'ailleurs lui-même placé cette sorte de regard de l'usage, sur l'usage du temps avant la mort, sous l'invocation d'un mot du Nouveau Testament, qu'il a, je crois, un peu adapté, enfin, formellement, qu'il a cité dans le Sainte-Beuve, dans le Contre Sainte-Beuve, qui est « Travaillez pendant que vous avez encore la lumière ». En réalité, je crois que la citation exacte serait, je pense, plutôt dans l'Évangile selon Saint Jean, la lumière n'est plus, c'est le Christ qui parle, n'est-ce pas, naturellement, la lumière n'est plus avec vous que pour peu de temps, marchez tant que vous avez la lumière, de peur que les ténèbres ne vous atteignent. Naturellement, nous prendrons tout cela, enfin, Proust et moi, si j'ose dire, d'une façon très laïque. Ça, c'est la première conscience. Les jours sont comptés. Ensuite, une autre conscience qui est conscience de ceci. Un moment vient où ce qu'on a fait, ce qu'on a écrit, les travaux, les pratiques passées, tout cela apparaît comme un matériau répété, c'est-à-dire comme un matériau ou une activité qui est vouée à la répétition et à la lassitude de la répétition. Il y a un moment où on se dit, c'est-à-dire moi, où je me dis, quoi, toujours, jusqu'à ma mort maintenant, je vais écrire des articles, je vais faire des cours, des conférences, ou au mieux des livres sur des sujets qui seuls varieront d'ailleurs si peu. Et on a le sentiment, n'est-ce pas, très puissant à ce moment-là, si on se dit cela, d'une sorte de forclusion, de fatalité, de forclusion fatale de tout niveau, tout nouveau, pardon, tout nouveau. Or, on pourrait dire qu'il y a une métaphore qui dit la forclusion du nouveau, c'est la prison. C'est le bagne. Parce que c'est qu'un bagne, c'est quelque chose, c'est un endroit, c'est un temps d'où le nouveau est forclos. Et par conséquent, on peut avoir, même dans la vie, apparemment, enfin, mondainement la plus libre, la plus justifiée, la plus heureuse, peut-être même la plus confortable, on peut avoir l'impression profonde d'un bagne. Car à ce moment-là, à partir du moment où on est conscient de la répétition qui vous attend jusqu'à la fin, ce qui est aussi forclos, c'est l'aventure. Le nouveau ou l'aventure. Adventure. C'est-à-dire ce qui m'advient. Et l'aventure étant toujours finalement une sorte d'exaltation du sujet. Qu'est-ce que c'est qu'une aventure ? C'est un épisode où le sujet, d'une manière ou d'une autre, et quelle que soit la détermination, est en état d'exaltation. C'est ça une aventure. Or, il y a un moment, peut-être de la vie, où on ne perçoit plus l'aventure, c'est-à-dire l'exaltation du sujet, comme possible. Et où, donc, on se sent condamné à la répétition. Et on voit son avenir, donc jusqu'à la fin, encore une fois, comme, je dirais, un printemps. C'est-à-dire, quoi, quand j'aurai fini ce texte, quand j'aurai fini ce cours, il n'y aura plus qu'à en recommencer un livre. Et on se dit à ce moment-là que, contrairement à une formulation de Camus, il revient à la mode, Sisyphe n'est pas heureux. Lui pensait que Sisyphe était heureux. Eh bien non, on se dit Sisyphe n'est pas heureux. Sisyphe est aliéné. Il est aliéné non pas à la vanité de son travail, mais il est aliéné à sa répétition. Voilà pour les deux consciences qui peuvent marquer ce milieu du chemin de la vie. Enfin, troisièmement, j'ai annoncé un événement. Eh bien, je dirais qu'un événement qui lui vient du destin peut survenir pour marquer, pour entamer, pour inciser, pour articuler, plus douloureusement et même dramatiquement, cet ensablement progressif et déterminer ce renversement du paysage trop familier que j'ai appelé le milieu du chemin de la vie. Je dirais que cet événement est d'ordinaire ce qu'on pourrait appeler, hélas, l'actif de la douleur. L'actif, au sens nietzschéen, toujours, de la douleur. Par exemple, si vous voulez, penser. La première partie de sa vie était un cavalier dandy, très mondain, militant actif de la Fronde. Un jour, revient de voyage et découvre sa maîtresse, qu'il adorait, décapitée au cours d'un accident. Et dès ce moment, il se retire, il renonce au monde et fonde la trappe. Ce jour-là était donc le milieu du chemin de sa vie, peu importe à quel âge ça s'est produit. Nous pouvons dire, je crois, sans paradoxe, que pour Proust, le milieu du chemin de la vie a été la mort de sa mère, en 1906. Même si l'action traumatique, lorsqu'elle va produire une mutation active, a lieu plus tard. la mère de Proust est morte en 1906, si mes souvenirs sont exacts, mais le milieu actif du chemin de la vie de Proust n'a lieu environ que trois années plus tard, n'est-ce pas, quand il conçoit enfin, je reviendrai là-dessus bien sûr, La recherche du temps perdu en 1909. Donc, le milieu du chemin, il y a le milieu événementiel peut être décalé par rapport au milieu du travail. Et je disais, puisque j'ai parlé un peu de tout ça ici il y a environ un mois dans ce qu'on appelle une conférence d'intérêt général qui a eu lieu le soir dans cette salle au Collège de France, et je rappelais, parce que ça venait justement d'arriver, j'ai dû faire la conférence vers le 19 octobre, ça venait d'arriver, n'est-ce pas, j'ai été très frappé par la mort de Jacques Brel, et le fait qu'on a rappelé ce que tout le monde savait un peu, mais que personne ne disait, qu'en fait, il y a un moment dans sa vie où il a su qu'il était condamné médicalement, et à ce moment-là, il a décidé de changer sa vie. Il savait que lui, ses jours étaient comptés, d'une façon précise, et il est parti, vous savez, il s'est installé aux Antipodes, et il a changé sa vie. Et donc, on peut dire qu'à ce moment-là, c'est le moment où Brel est parti, ça a été son milieu de vie. Et ce milieu de vie, encore une fois, était à peine à quelques années de sa mort. Mais il n'empêchait que c'était le milieu de sa vie. Et bien donc, pour généraliser, je dirais qu'un deuil cruel et comme unique, peut constituer cette signe du particulier, c'est-à-dire marquer le pli décisif. Et le deuil sera à ce moment-là le milieu de ma vie, ce qui la divise irrémédiablement en deux parties, avant, après. Car le milieu de ma vie, quel que soit l'accident, ce n'est rien d'autre que ce moment où on découvre la mort comme réelle, et non pas comme un thème à poésie ou à colloque. Et si on revenait à Dante, on dirait que la Divine Comédie, c'est le panorama même de cette réalité. Donc, tout d'un coup, se produit, sous l'effet de deux consciences, de deux sentiments et d'un événement, se produit cette évidence, c'est que d'une part, je n'ai plus le temps d'essayer plusieurs vies. Il faut que je choisisse ma dernière vie, ma vie nouvelle, vita nova, comme disait Dante, ou vita nuova, comme disait Michelet. Vita nova, c'est latin, vita nuova. C'est italien. Les gens parlent latin, souvent. Donc, d'une part, je n'ai plus le temps d'essayer plusieurs vies, il faut que je choisisse ma vita nuova, mais d'autre part, aussi, je dois sortir de cet état ténébreux où me conduisent l'usure des travaux répétés, je l'ai dit, et le deuil. Cet ensablement, cet enfoncement immobile dans le sable mouvant, c'est-à-dire le sable qui ne bouge pas en réalité, cette mort lente du surplace, cette fatalité qui ferait qu'on ne pourrait entrer vivant dans la mort, car c'est là le problème, peut être diagnostiqué ainsi, généralisation et accablement des désinvestissements. On désinvestit perpétuellement et les désinvestissements se généralisent et vous accablent. Et on est dans l'impuissance à investir de nouveau. On ne peut plus, il y a un moment où l'usure, le deuil, font qu'on ne peut plus investir dans rien. Ni même, où on n'investit plus que faiblement, mollement, brièvement. On ne peut plus investir dans une doctrine, dans une idée, dans une amitié, dans un amour. Tout s'affadit et s'affaiblit.
Il y avait un mot pour cela au Moyen-Âge, dont mot que j'ai déjà employé et que j'ai expliqué dans le premier cours, c'est-à-dire il y a maintenant 2 ans, c'était ce mot qu'on appliquait à un certain état d'esprit des moines, état d'esprit tout à fait déplorable, et ce mot c'était l'acédie, acédie, A-C-E-D-I-E, qui vient du grec acédia, qui est en rapport avec la racine, qui veut dire s'occuper de, pas ne plus s'occuper de quelque chose. Eh bien, on se trouve alors dans cet état d'acédie. Et de quelque manière, qu'on le lise, qu'on le conçoive, et en dépit de l'usure du mot que je vais employer, qui est irremplaçable, je dirais que l'acédie se définit finalement, et c'est en cela qu'elle est totalement douloureuse, elle devait l'être pour les moines d'ailleurs du Moyen-Âge, elle peut se définir comme une impuissance à aimer quelqu'un, quelques-un, le monde, etc. Car être malheureux, ça se traduit souvent par l'impossibilité d'aimer, de donner. Donc à ce moment-là, vient effectivement le besoin ou l'évidence qu'il est nécessaire de changer, c'est-à-dire de donner un contenu à la secousse du milieu de la vie. C'est-à-dire, en un sens, la nécessité de se donner un nouveau programme, un programme de vita nuova. Or, pour celui qui écrit, pour celui qui a choisi d'écrire, c'est-à-dire pour celui qui a éprouvé la jouissance, le bonheur d'écrire, presque comme un premier plaisir, au sens freudien, premier plaisir donc qu'il essaye de reconduire toute sa vie, et qui ne se ternit jamais en lui. Donc pour celui-là, il ne peut y avoir de vita nova, me semble-t-il, que la découverte d'une nouvelle pratique d'écriture. Ce qui peut être nouveau, ça n'est pas de renoncer à l'écriture, c'est d'en changer, de changer son écriture. Je dirais que certes, on peut, puisqu'on nous en sommes à imaginer des changements un peu spectaculaires dans une vie, on pourrait très bien imaginer de changer, par exemple, de contenu, de doctrine, de théorie, de philosophie, de méthode, de croyance. Et certains le font. Là, il y a de grandes mutations doctrinales, ou la détermination d'un événement, d'un trauma. Nous voyons cela très souvent. Mais je dirais précisément que changer de doctrine, changer de philosophie, changer de contenu, en un sens, c'est banal. Je dirais changer d'idée, on le fait comme on respire. On investit, on désinvestit, on réinvestit ailleurs. Et je dirais que c'est la pulsion même de l'intelligence d'investir et de désinvestir en ce qu'elle est désirante. Si l'intelligence est une machine désirante, elle ne peut qu'être prise finalement dans une pulsion perpétuelle de changement. L'intelligence, qui est d'ailleurs une notion, vous le savez, proustienne, hein, nous reviendrons là-dessus, n'a d'autre moyen de montrer son désir qu'en aimant et désaimant, parce que son objet, il est en face d'une forme, n'est pas fétichisable, je dirais. Bon, ça c'est un problème qu'on pourrait se poser. Est-ce qu'on peut fétichiser une idée? Je ne sais pas. On peut fétichiser une forme, mais, et donc avoir un rapport pervers avec une forme, et notamment une forme d'écriture, mais est-ce qu'on peut fétichiser une idée? Peut-être, je ne sais pas. Ça serait en ce cas la définition du militant. Fétichiser une idée. Mais les militants éternels sont rares, n'est-ce pas, et de plus en plus, et on les cite toujours en exemple. Je veux dire qu'ils sont rares, finalement. La plus belle des nécrologies, c'est de dire de quelqu'un qui n'a jamais changé d'idée. En tout cas, quelqu'un qui aurait changé plusieurs fois d'idée dans sa vie, on ne le mettrait pas dans sa nécrologie. Sauf peut-être si c'était un article du Monde. Alors, il faudrait d'ailleurs varier tout ça et opposer donc à cette sorte de variabilité de l'intelligence selon les contenus, le problème de la foi, au sens religieux du mot, le foi, c'est probablement autre chose. Encore, il y a aussi un mouvement de va-et-vient du sujet par rapport à la foi. Mais disons que là, le problème est particulier parce que, bien entendu, le contenu religieux indique que ce qui est en jeu, c'est un rapport avec la mort. Donc, pour qui a écrit, le chant de la Vita Nova, ça ne peut être que l'écriture, et donc la découverte d'une nouvelle pratique d'écriture. Et au fond, le nouveau avec un grand N qu'on peut escompter, c'est seulement ceci, que la nouvelle pratique d'écriture rompe avec les pratiques intellectuelles antécédentes. Que l'écriture, la nouvelle écriture, comme pratique, hein, pas encore comme produit, on ne sait rien, mais que la nouvelle écriture comme pratique se détache de la gestion du mouvement passé. Le sujet écrivant subit une pression sociale, n'est-ce pas, le sujet qui écrit subit une pression sociale et incessante, je peux vraiment en témoigner, pour l'amener, la pression sociale qui agit sur lui, pour l'amener et pour le réduire, si je puis dire, à se gérer lui-même. Une fois qu'on a écrit, ce que la société vous demande n'est pas du tout d'écrire du nouveau, et même pas d'écrire de nouveau, finalement. Elle vous demande de gérer ce que vous avez écrit, c'est-à-dire à gérer son œuvre en la répétant. Je connais bien, ce n'est pas une critique, d'ailleurs, il faut accepter le jeu social tel qu'il est, n'est-ce pas, mais je connais bien les demandes qui me sont adressées. Or, ce sont toujours, n'est-ce pas, 9 fois sur 10, ce sont des demandes, je dirais, qui, innocemment, venues justement de la doxa sociale, de la masse sociale, ce sont des demandes qui visent à me faire répéter ce que j'ai déjà dit. J'ai écrit il y a plus de 20 ans des mythologies. Et ce qu'on me demande, ce sont toujours des mythologies. J'écris le plaisir du texte, et ce qu'on me demande toujours, c'est de témoigner sur le plaisir du texte. Je ne parle pas du discours amoureux, parce que là, la reconduction est évidente. Alors, c'est évidemment cette espèce de ronron qui doit être interrompu. Il faut décider, une fois un moment dans la vie, donc tout ça lié au certain âge dont j'ai parlé, si on va se mettre dans la gestion ou dans la novation, dans la production. Blanchot, une fois de plus lui, a dit ce tournant d'écriture dont je parle, d'une façon à la fois, si vous voulez, comme toujours chez lui, très pacifiée et en même temps très désespérée. Ça se trouve dans l'entretien infini, où il écrit au début: il y a un moment dans la vie d'un homme, par conséquent des hommes, où tout est achevé, les livres écrits, l'univers silencieux, les êtres en repos, il ne reste plus que la tâche de l'annoncer. C'est facile. Mais comme cette parole supplémentaire risque de rompre l'équilibre, et où trouver la force pour la dire, où trouver encore une place pour elle, on ne la prononce pas, et la tâche reste inachevée. On écrit seulement ce que je viens d'écrire, finalement. On ne l'écrit pas non plus. Eh bien, j'ai encore, de toute façon récurrente, et j'aurai sûrement encore, la tentation, si vous voulez, l'image de décision décrite par Blanchot. Et le cours de l'année dernière portait la trace de cette tentation, le goût du nœud, c'est-à-dire le goût de cette façon du retrait, de la retraite, du retrait. Car en face de cette espèce de ronron de la gestion dont je parlais, si vous voulez, deux voies s'ouvrent, deux voies sont possibles. Ou bien le silence, le repos, le retrait. Pratiquez ce vers d'un poème zen qui dit: assis paisiblement sans rien faire, le printemps vient et l'herbe croît d'elle-même. Je peux donner cela comme devise à la dernière case de ma vie. Je peux décider que je vais rester assis paisiblement les autres le permettent, si paisiblement, sans rien faire, que le printemps viendra et l'air nous portera d'elle-même. Donc c'est une première possibilité pour dire non à la gestion. Là, pratiquement, ça veut dire qu'on ne répond pas aux lettres, on supprime le téléphone, etc. Ou bien alors, l'autre possibilité, c'est de reprendre la marche dans une autre direction. Reprendre la marche, c'est-à-dire batailler, investir, planter, faire une plantation nouvelle, avec le paradoxe bien connu, énoncé par La Fontaine, passe encore de bâtir, mais planter à cet âge. Eh bien oui, on déciderait de planter. Alors pourquoi est-ce qu'on déciderait cela aujourd'hui? Eh bien, je dirais que à ce niveau, toute explication de décision est incertaine, car on ne sait pas la part d'inconscient qui est engagée, enfin, ou la nature véritable du désir engagé. Mais je dirais pour moi, puisque c'est cette voie que j'ai choisie, de planter de nouveau, et non pas de me reposer, je dirais en toute conscience que si j'ai décidé de prendre la voie de l'écriture, c'est-à-dire toute écriture consiste finalement à batailler d'une certaine façon. Si j'ai décidé de choisir cette voie, c'est parce que j'ai un sentiment de danger. Il me semble que la société française actuelle dans laquelle je vis, qui est la mienne, dans laquelle mes amis vivent, est caractérisée idéologiquement par une montée puissante de la petite bourgeoisie. Elle prend le pouvoir peu à peu. Elle ne l'a peut-être pas économiquement, politiquement peut-être non plus. Elle l'a de plus en plus idéologiquement. Elle règne dans les médias, sont de plus en plus importants dans la mesure où ils sont où notre société est de plus en plus une société qui consomme des images et les médias créent des images. Donc les médias ne sont pas seulement un espace de transmission, pas même d'amplification, ils sont un espace de création. Or, l'idéologie petite bourgeoise règne dans les médias, grande presse, même presse de gauche souvent, télévision, radio, etc. Et il faudrait ici une analyse, je dirais, esthétique de la radio et de la télévision et de la grande presse pour montrer quelles valeurs implicites y sont promues et quelles sont les valeurs qui sont rejetées. Donc, en général, les valeurs, disons, aristocratiques. Donc, il y a un danger, me semble-t-il, un danger plus manifeste depuis quelque temps. Il me semble qu'il y a des signes concordants d'une montée, par exemple, de l'anti-intellectualisme, qui est une pulsion historiquement, typiquement, petite bourgeoise, qui est une pulsion extrêmement dangereuse, parce qu'elle est, la plupart du temps, contiguë au racisme, et au fascisme, bon, qu'est-ce que c'est que l'anti-intellectualisme? C'est un racisme de langage, un racisme de langage. Quand on ne tolère pas le langage de l'autre, vous connaissez les attaques, je dirais, perpétuelles, au sens du calendrier perpétuel, contre le jargon des intellectuels, et avec ceci de nouveau, je pense, même appelle l'attention sur un danger actuel, que ces attaques contre le jargon intellectuel sont maintenant passées, c'est ça qui est nouveau, c'est passé dans le champ des grands médias. C'est-à-dire à la radio, à la télévision, Maintenant, ce sont ces médias-là qui s'occupent du langage des intellectuels pour le refuser. Et comme il y a aussi peut-être aujourd'hui, j'en parlais avec un de mes amis, des risques, par exemple, au cinéma, d'une sorte d'offensive généralisée contre le cinéma d'auteur, par exemple. Il faut
pourrait chercher un petit peu, surveiller les signes. Hein. Je crois que c'est très important dans l'époque actuelle. L'époque n'est pas, si vous voulez, actuellement absolument en état de danger, ni critique, mais de pré-danger, et je crois qu'il faut surveiller tous ces signes-là avec vigilance. Pourquoi ? Parce que nous autres, intellectuels ou artistes, c'est notre vie qui est en cause. Et donc, le sentiment, il faut se défendre, et que c'est une question de survie. J'en parlais l'autre jour avec Solers, et il me disait, je crois très justement, que l'écrivain, l'intellectuel, s'il veut survivre, devra et doit peut-être tout de suite accepter de s'injecter un peu de paranoïa. Un peu de paranoïa. Un peu moins de perversion, hélas, ça rend heureux la perversion. Et peut-être un petit peu plus de paranoïa. Pas de cadeau. Pas de cadeau quand la bêtise se manifeste. Et donc, défense nécessaire pour élever la formule, si vous voulez, défense nécessaire de l'artiste au sens nietzschéen du terme, c'est-à-dire comme type. Bon, et bien donc, c'est cette voie que j'ai choisie, et non pas la voie, tout au moins pour le moment, de la retraite. Alors, avant de dire comment cette voie se dessine, comment elle se présente à moi et à vous, ceux d'entre vous qui reviendront, puisque le cours qui commence et qui durera en principe plusieurs années sera sur cette voie d'écriture une sorte de compagnon saisonnier de voyage, je dois dire que le premier acte de cette aventure a été celui-ci. Le premier acte de cette voie a été celui que je vais dire et qui concerne certains d'entre vous, c'est-à-dire ceux qui étaient présents l'année dernière. Donc le premier acte de cette mutation a été la décision, tout au moins actuelle, de ne pas publier d'aucune manière le cours sur le neutre. Sans doute j'ai hésité, il y a un moment, j'ai pensé le publier. Et finalement j'ai renoncé, pour deux raisons que je vais vous dire et que je vous dois, il me semble. La première raison, c'est que je pense que dans l'activité d'une vie, il faut toujours réserver une part pour l'éphémère, ce qui a lieu une fois et s'évanouit. C'est vrai dans l'ordre érotique, il faut toujours réserver cette part de l'éphémère, l'aventure qui s'évanouit en une fois. Et c'est vrai aussi, probablement, dans l'activité intellectuelle. Je dirais que cette part-là qu'on réserve, c'est la part nécessaire du monument refusé. Quand on refuse le monument, le monumental, l'inscription monumentale. Et je pense que c'est là la vocation d'un cours. Bien sûr, il y a des exceptions illustres. Le cours de Saussure, si on ne l'avait pas eu, ça serait... C'était tout de même dommage. Mais justement, il faut rappeler que Saussure, pour lui, c'était un déchet insignifiant, pas sa théorie de la linguistique générale. Il n'a jamais pris ça pour autre chose qu'un cours qui passait, et c'est seulement après sa mort qu'on a décidé d'en faire une sorte de monument théorique. Donc un cours, c'est dans mon esprit une production spécifique, ni tout à fait écriture, ni tout à fait parole, qui est marqué par une interlocution implicite, une complicité silencieuse, c'est quelque chose qui donc, à Beauvau, dès le début, dans l'œuf, doit et veut mourir, et ne pas laisser un souvenir plus consistant que la parole. Ce qui, étant présent aujourd'hui, va cependant mourir. C'est cela. Et au fond, c'est sage que ça soit ainsi, il faut que cela soit représenté dans la vie et dans la vie. Et si on reprend une nuance de la notion japonaise de ma, d'intervalle, eh bien, ça serait cette nuance du ma qu'on appelle en japonais utsuroi, qui, par exemple, définit Bon, Utsuroi, c'est ce qui se réfère par exemple à ce moment où la fleur, si j'ose m'adresser à celle-ci, va passer. Enfin, le cours, c'est comme une fleur, permettez, mais qui va passer. Il va passer, et c'est ce moment-là où Utsuroi, c'est-à-dire les Japonais, n'est-ce pas, jouissent de la fleur, non pas dans sa beauté immobile, mais dans sa beauté en tant qu'ils y lisent déjà le fait qu'elle va passer. C'est ça, Utsuroi. Et le cours, au fond, toute proportion gardée, bien sûr, c'est cela. D'autre part, publier le cours sur le neutre, ça aurait été gérer le passé. C'était une activité de gestion. Or, je pense qu'il faut aller de l'avant. Et je dirais, le temps presse. Pourquoi le temps presse? Et écrire un cours est un travail long. Alors qu'en fait, il faut marcher quand il fait jour. Et ce mot proustien que j'ai cité rejoint un autre mot de l'évangile, aujourd'hui, c'est l'évangélique, mais qui est allégué une fois de plus d'une façon très laïque, c'est qu'il faut laisser les morts enterrer les morts. Il faut laisser un cours s'enterrer lui-même, et il faut laisser le neutre suspendre son expression écrite. Et maintenant, avant de terminer, aujourd'hui, si vous le permettez, un peu d'anecdotes personnelles, un bref instant, pour vous dire quand la décision de ce changement a été prise. Bien, je dirais, solennisant beaucoup, on essaierait ensuite de dédramatiser un peu tout ça, elle a été prise en ce qui me concerne le 15 avril 1978. Je me trouvais alors à ce moment-là en vacances au Maroc, à Casablanca, dans l'appartement d'un ami. C'était une après-midi, c'était lourde, le ciel se couvrait, l'air un peu frais, c'est toujours très décevant au Maroc, puisque on croit quand on vient ici qu'il fait chaud toute l'année. Le ciel se couvrait, ça devenait un peu frais, et nous sommes allés en groupe avec des amis, en deux autos, à un endroit qui s'appelle la Cascade, sorte de joli ballon, un peu à l'écart de la route de Casablanca. Et j'ai trouvé à ce moment-là, pendant tout cet épisode de promenade, une certaine tristesse, un certain ennui, et je dirais le même ininterrompu depuis un deuil récent, et qui se reportait, se reporte encore, sur tout ce que je fais, et sur tout ce que je pense, par cette espèce de manque d'investissement dont j'ai parlé, et que, en être témoin, j'essaye de secouer. La secousse duquel j'essaye de mettre en place un appareil actif. Nous sommes revenus de cette promenade, et je suis revenu seul dans l'appartement, vide, et j'ai eu alors ce moment très difficile, qui est l'après-midi, dont je reparlerai largement un peu plus tard. Donc j'étais seul, et assez triste. Et j'ai fait ce que Flaubert appelait une marinade. C'est-à-dire, c'est le moment où on se met sur son lit et où on marine. Alors lui, Flaubert, il le faisait parce qu'il ne pouvait pas une phrase. C'était. Alors il marinait. Mais il avait un divan tout de même, n'est-ce pas, dans son bureau où il pouvait mariner. Et j'ai mariné. Et j'ai donc réfléchi. Et à ce moment-là m'est venue une idée forte, quelque chose comme, je vais employer une expression très démodée, dont les deux mots sont extrêmement démodés, mais je les ai reçus dans mon imaginaire sous cette forme. Cette idée, c'était l'idée d'une sorte de conversion littéraire, de conversion à la littérature. L'idée donc d'entrer en littérature, d'entrer en écriture, l'idée d'écrire comme si je ne l'avais jamais fait, et de ne plus faire que cela. Je dois dire, puisque je raconte d'une façon anecdotique et personnelle, que pendant cette promenade, j'ai eu l'idée, bien entendu, de quitter le collège. C'était logique,
pour unifier une vie d'écriture. Car souvent, le cours entre en conflit avec l'écriture. Donc si on veut avoir une vie d'écriture, logiquement, il faudrait renoncer à tout enseignement. Et puis, bon, je vais rectifier cette idée, mais à ce moment-là, j'ai eu l'idée, bien sûr, j'ai entrevu un compromis, si vous voulez, et j'ai eu l'idée d'investir le cours et le travail nouveau dans la même entreprise littéraire, c'est-à-dire de faire cesser la division du sujet. Le sujet qui est divisé, qui, une part de l'année, prépare un cours et l'autre part essaye d'écrire des livres ou même des articles, de faire cesser cette division en dessinant un projet unique qui engloberait à la fois le cours et la mutation d'écriture. J'appellerais le grand projet. Le grand projet parce que seul le projet, réunissant toutes les contradictions. Et ce grand projet m'a procuré une image de joie. La joie que j'aurais si je me donnais une tâche unique, telle que je n'ai plus à m'essouffler après le travail à faire, mais que tout instant de la vie fut désormais un travail intégré à ce projet. Et c'est pourquoi ce 15 avril, pour ça que j'en ai parlé, c'est parce qu'il s'est présenté un peu comme une sorte de satori, d'éblouissement analogue. Pas peu importe si l'analogie est naïve et surtout extrêmement prétentieuse, analogue à l'illumination que le narrateur proustien éprouve à la fin du temps retrouvé. Il décide d'écrire, je vous rappelle, la différence, et elle est lourde, c'est que quand il décide d'écrire son livre, le livre est déjà écrit. Encore un instant, si vous permettez. Alors, je voudrais tout de même dédramatiser un peu ce 15 avril, enfin le désolaniser, et pour cela, je vais reprendre certains éléments de cette décision de mutation d'une façon plus détachée, plus théorique, plus critique, qui peut tout de même concerner davantage certains d'entre eux. Tout d'abord, une remarque sur le vouloir écrire, vouloir prévenir écrire. L'attitude, la pulsion, le désir, je ne sais pas comment on peut dire, d'écrire, c'est quelque chose, vous le savez, qui est mal étudié, finalement, dont on a assez peu parlé, qui est mal défini et qui est mal situé. Qu'est-ce que c'est que ça, le vouloir écrire? D'où ça vient? Comment, par quel système idéologique l'expliquer? Au fond, on ne le sait pas très bien. Et cette espèce de vasouillage, si vous permettez le mot, de vasouillage théorique sur le vouloir écrire, car il existe des théories de la littérature, pas un peu partout et en France aussi, mais au fond ces théories de la littérature, à ma connaissance, il n'y a pas de chapitre sur le vouloir écrire. Le vouloir écrire est très important parce qu'en fait il concerne des gens qui n'ont pas encore écrit, pas seulement des écrivains. Et donc, cette espèce de vasouillage sur le vouloir écrire est bien suggérée par le fait qu'il n'existe pas de mots dans la langue pour cette envie du vouloir écrire. Ou plutôt, exception savoureuse, il en existe un. Il existe un mot qui désigne en un seul mot le vouloir écrire, mais ce mot existe dans une langue extrêmement particulière et décadente, qui était le bas latin. En effet, en bas latin, il y avait un verbe, paraît-il, qui voulait dire vouloir écrire. Et ce verbe, c'était scripturire. Scripturire. Vouloir écrire. Et c'est tellement rare, pas que ce verbe n'est attesté qu'une seule fois. Et il est attesté une seule fois chez un écrivain hyper mineur, ou plutôt hypo mineur, je ne sais pas comment on peut dire, qui est Sidoine Apollinaire, qui était l'évêque de Clermont-Ferrand, l'Auvergnat, du 5e siècle, qui a défendu Clermont contre les Visigoths. Et lui a employé ce verbe, scripturire, pour dire vouloir écrire. Alors, je veux dire simplement que puisqu'il existe un mot dans une langue, même une fois, je dirais en raccourci, c'est qu'il manque dans toutes les langues. Je pense qu'il faut concevoir le problème de la force dans les, la force dans la, dans l'élan, dans le langage, ce que j'ai appelé, qui a soulevé à Tolé, le fascisme de la langue, enfin, voilà, voilà, quelque chose qui peut être rattaché à une réflexion sur le fascisme de la langue, c'est que quand un mot existe dans une langue et qu'il n'existe pas dans les autres langues, il y a une épreuve de force qui est instinctive. Enfin, je veux dire que si un mot n'existe absolument dans aucune langue, à ce moment-là, il y a, bon, le problème est nul. Il n'y a pas de pertinence. Mais s'il existe dans une seule langue, si particulière soit-elle, c'est qu'il manque dans toutes les autres. Et donc, ça serait magnifique, peut-être on pourrait faire aujourd'hui, puisqu'il y a des ordinateurs, de se livrer à un travail, je dirais, différentiel sur toutes les langues. Les mots qui n'existent, qui sont dans une langue et pas dans les autres. Bien. Alors, pourquoi est-ce que le vouloir écrire n'a pas été étudié? Pourquoi il n'y a pas de mots sauf ce fameux scripturire? Eh bien, parce que, d'abord, probablement, ce vouloir écrire est très minoritaire statistiquement. Hein? Il y a très peu de gens, probablement, qui sont en proie au vouloir écrire. Je ne sais pas, peut-être qu'il y en a plus qu'on croit, je ne sais pas du tout. Je ne peux pas le savoir. Mais peut-être d'une façon plus retorse, parce que pulsion-réactivité, ici, sont dans un rapport autonymique. Je veux dire que le vouloir écrire ne relève que du discours de, que du discours de celui qui a écrit. C'est ça l'autonymie. Ou n'est reçu que comme discours de celui qui a réussi à écrire. Seul celui qui a réussi à écrire peut témoigner du vouloir écrire, par définition. Dire qu'on veut écrire, voilà, en fait, la matière même de l'écriture. Seules, donc, des œuvres littéraires, et c'est là que l'autonomie, témoignent du vouloir écrire, et non des discours scientifiques. Aucun discours scientifique ne peut prendre en charge le vouloir écrire. Et ça pourrait peut-être même être une définition topique de l'écriture ou de la littérature opposée à la science, que l'écriture ou la littérature, ce serait l'ordre de savoir où le produit n'est pas distinct de la production, où la pratique n'est pas distincte de la pulsion, et en cela appartenant, comme on l'a souvent suggéré, à une érotique. Ou encore, écrire n'est pleinement écrire que s'il y a renoncement au métalangage. Ça, c'est important. Hein? Écrire, c'est décider, c'est se consacrer à une activité qui dit non au métalangage, car on ne peut dire le vouloir écrire que dans la langue de l'écrit, et non pas dans une autre langue. Le vouloir écrire n'est pas transcriptif, il n'est pas intersémiotique. Alors il serait bon un jour de recenser les œuvres explicites du vouloir écrire, c'est-à-dire du scripturire. Je pense, enfin chacun peut, disons, venir avec une idée pour ce dossier. Je pense, entre autres, spontanément, par exemple, je ne sais pas moi, à Rilke, l'être un jeune poète. Je pense, mais est-ce que c'est vraiment le mot tellement la chose est évidente à Proust? Car le scripturire a sa somme et son monument, qui est précisément la recherche du temps perdu. Proust a écrit la geste, et aussi le geste, du vouloir écrire. Je reviendrai donc sans doute sur la structure de cette geste, car il s'agit d'un véritable récit. C'est d'ailleurs le seul grand récit qui suit la recherche du temps perdu de bout en bout, où il s'agit, si vous voulez, d'un mythe, avec des quêtes, échecs successifs, épreuves, le monde, l'amour, etc., tout ce qui empêche le vouloir écrire, et victoire finale. Enfin, la seule chose que raconte la recherche du temps perdu, c'est le vouloir écrire. Il y a des récits partiels, il y a des épisodes narratifs très fréquents. Résumer la recherche, c'est l'histoire du vouloir écrire. Sinon, ça n'est pas résumable. Donc, il ne faut pas oublier ceci, que la preuve que la recherche est récit du vouloir écrire réside dans ce paradoxe que le livre, je le répète, est censé commencer à la fin quand il est déjà écrit. Ça, c'est une démonstration éclatante de l'autonomie définie de vouloir écrire et l'écrire. Je dirais qu'on peut aller plus loin et dire que tout récit mythique récite, c'est-à-dire met en récit, ceci, que la mort sert à quelque chose. Et pour Proust, écrire veut dire aussi que la mort sert à quelque chose. Écrire le pouvoir écrire dit cela, que la mort sert à quelque chose et que le vouloir écrire et l'écrire servent à sauver, à vaincre la mort. Non pas la sienne, encore qu'il ait lutté avec elle, vous savez, comme je l'ai dit, mais celle de ceux qu'il a aimés, pour lesquels il a porté témoignage en écrivant, en les perpétuant, en les érigeant hors de la non-mémoire. C'est pourquoi, s'il y a énormément de personnages dans la recherche qui sont perdus, c'est-à-dire à même l'ordre du récit, il y a une quantité énorme de personnages, mais il y a deux personnages qui ne sont pas des personnages, qui sont des figures, c'est la mère et la grand-mère. La mère et la grand-mère ne sont pas des personnages. Et c'est probablement, c'est du moins ainsi que je vis moi à la recherche, la figure qui justifie l'écriture, parce que l'écriture justifie l'écriture. Et je dirais que Proust est tout à fait à part dans le monde littéraire, pour cette raison, que c'est une sorte de héros non-héroïque en qui se reconnaît celui qui veut écrire. Reste à savoir, évidemment, si lire Proust, aimer Proust, ce n'est pas toujours vouloir écrire. Alors à ce moment-là, comme il y a quand même beaucoup de gens qui lisent Proust et qui l'aiment, ça voudrait dire qu'il y a beaucoup de gens qui veulent écrire. Mais je m'arrête sur ce syllogisme incertain. Donc, 5 minutes d'arrêt, et ensuite, changement complet de paysage, le animal.